Amis des radios silence, bonjour. Coup sur coup, nous avons deux informations, grandes nouvelles, qui font la une de nos journaux. C'est le mandat de Trump et sa victoire éclatante qui a surpris tout l'establishment, qui est sonné debout. Et puis ici chez nous, nous avons les déboires de Monsieur Fillon. Qui ne méritait surtout pas cela. Nous savons tous que les hommes politiques ne sont pas des anges, mais quand même, tout de même. Donc, moi, j'y vois une corrélation très forte, hein, entre les deux, sur le plan, du fonctionnement de la justice. Parce que c'est, le manque de justice qui permet aujourd'hui que les voyous de la République, j'appelle ça une bande de filous, s'est emparée de presque tout et s'érige en donneur de leçons, en, comment dirais-je, monsieur la morale, qu'il ne pratique surtout pas, monsieur propre, alors que ce sont eux-mêmes les premiers bénéficiaires du système, lequel système est très 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 mal en ce moment. Par où commencer la connexion pour vous faire visualiser ce qui lie très très fort Trump à Fillon. D'abord, Fillon, on lui fait payer le Brexit, on lui fait payer la victoire de Trump, parce que dans les deux cas, et c'est ce qu'il faut toujours regarder derrière les événements, il faut regarder qui tire les ficelles. Alors, qui tire les ficelles? Dans le Brexit, c'était bien sûr l'Union européenne, dont on connaît les accointances globalistes et mondialistes, pour ne dire que cela. Et pour M. Trump, c'était exactement le même profil de supporters qui était derrière Hillary. Et derrière le Brexit, qui soutenait, voilà, le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. C'est le même profil, hein. Ce profil, c'est quoi? C'est le Parti démocrate aux États-Unis et c'est le Parti socialiste en France, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est les gens dits de la gauche, c'est ce qu'on appelle les, je sais pas, c'est les libertaires, on dit aux États-Unis, si je ne sais pas c'est quoi. Ce serait peut-être les bobos, j'en sais rien. C'est toute la classe qui parle du no frontières, pas d'État-nation. Donc, ils assimilent cela au nationalisme hitlérien, carrément. C'est toute la caste qui en ce moment soutient l'immigration de façon forcenée comme cela, alors que ce sont les mêmes qui font l'éloge d'un peuple élu, qui aurait donc une forme de préséance sur les autres. Donc c'est tout à fait contradictoire, mais je vous dirai après qu'en fait, ça fait partie d'un jeu caché qui joue sur les apparences et les faux-semblants de façon à tromper et à détourner l'attention des moins éduqués, des moins instruits, des moins avertis. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup des citoyens qui ont succombé bêtement, j'ai envie de dire méchamment, à la loi de médiatique, vous savez, hein, tout ce qui est à la mode, tout ce qui est dit par les journaux, c'est vrai. Or, rien n'est plus faux. Donc, la question de Fillon, c'est déjà une question institutionnelle, dans la mesure où l'enveloppe parlementaire que Monsieur Fillon, dont Monsieur Fillon pouvait disposer, comme tous les autres parlementaires, est une enveloppe discrétionnaire. On l'utilise comme on veut. Si les journalistes faisaient leur travail dans ce pays, ils auraient dénoncé ce fait que moi j'ai dénoncé dans un livre intitulé Le clonage institutionnel. Depuis 2007, j'ai proposé ce livre à beaucoup d'éditeurs de la place sans savoir qu'ils étaient membres d'une secte non déclarée, qu'ils ne faisaient passer qu'un certain profil, notamment le profil que eux, ils élisaient. Toutes ces choses qui aujourd'hui arrivent sur la place publique, franchement, moi, je pourrais en écrire des pages les yeux fermés parce que j'y ai réfléchi pendant des années. Depuis 2007, un livre a été fait Oh bon, fait par moi-même, on appelle ça l'auto-publication, je ne sais plus, et qui parlait déjà de toutes ces choses. On est en retard de 10 ans. De 10 ans parce qu'il y avait une omerta qui passe les copains, et puis après, une fois qu'on a passé les copains, on resélectionne pour la fonction présidentielle qui on veut voir président ou pas. Oh bon, monsieur Fillon connaît le système, hein. C'est un produit système, monsieur Fillon, on va pas nier, il a fait des livres. Tous ceux qui font des livres font partie du système. Ne vous posez pas la question. Tous ceux qui sont dans les partis politiques font partie du système. Tous ceux qui sont élus font partie du système. Tous les médias et la presse, voilà, ils ont été pris la main dans le sac. Vous voyez un peu Figaro, les grands messieurs, Le Monde, les grands journalistes, Le Point, l'Express, l'Humanité. Vous voyez un peu tous ces donneurs de leçons, en fait, c'est des assistés qui vivent avec les subventions que l'État leur donne. Ce même État-nation qu'il critique, puisqu'il veut faire tomber les frontières, il suce, mais c'est vrai qu'une fois qu'on fait tomber les frontières, on va sucer à un niveau plus haut, ça c'est bien connu. Voilà, Le Figaro qui a 16 millions de subventions à l'année, Le Monde, Le Point, l'Express, les Échos, tous ces grands journaux, Libération, vous voyez un peu toute la frime aujourd'hui en France, c'est que ça. Donc ils ont intérêt à placer un président qui va faire perdurer tout ce système de prébende où les journalistes sont traités avec les privilèges, hein, s'il vous plaît. Ils sont trop importants pour la République, bien sûr, avec la désinformation et la médisance, carrément. Ils font jamais leur travail. Monsieur Fillon, il fallait le coincer. Moi, j'ai eu une discussion, alors. Là, on va peut-être partir du terrain, hein, puisque on peut toujours refaire nos réflexions. J'ai eu une discussion comme ça dans un lieu impromptu, ici en Isère, où il était question, oui, mais Monsieur Fillon, beaucoup d'énervement. Mais alors, quand on va creuser, cet énervement, il est très accentué du côté des gens qui vont vous dire finalement, je suis socialiste. Il y a même une qui a dit, oui, je suis allée voter pour les primaires, hein, républicaines parce que je voulais Monsieur Juppé. Ah, quelqu'un lui a répondu en face, non, mais Monsieur Juppé, on n'en veut pas. C'est voilà. Si vous voulez, ils ont tous fait part de leur colère parce que voilà, c'est un peu la frustration qu'on passe sur les autres. Eux, ils travaillent dur, ils voient rien. Et puis elle, Madame Fillon, d'après eux, elle travaillait pas. Elle était à la maison et elle gagnait. Vous savez, cet argent brut qu'on a balancé comme ça aux gens qui en fait revient à 2 200 euros par mois de salaire, ce qui est tout à fait convenable quand on pense qu'il y a des ministres qui ont dû seulement se coucher et puis d'autres grands chefs de département qui ne produisent pas grand-chose et qui gagnent 10 000 euros, 5 000 euros au trésor public. Bon, je veux dire, 2 200 euros, c'est un salaire qui reste correct. Qu'est-ce qu'elle faisait? Bon, elle faisait rien et puis en même temps, elle cumulait des boulots et puis en même temps. Mais ça, c'est le quotidien de tous les élus et de tous ces journalistes que vous voyez. Alors, vous avez Christophe Barbier, prenez-le. Lui, c'est vraiment le gars que vous trouvez partout, à la radio, à la télé, à la presse. Comment il fait? On pose pas les vraies questions. Comment ils font, eux, les journalistes, pour être partout en même temps? On pose pas les vraies questions. On pose la question à Monsieur Fillon. Pourquoi lui? C'est pas normal. Ensuite, le travail de Madame Pénélope. Madame Pénélope. Pardon. Madame Fillon, pour connaître quand même ce que c'est, parce que moi j'ai passé un entretien, hein, c'était pour Monsieur Christian Nouty à l'époque. Hein. Ils recherchaient au Conseil général de l'Isère, ils étaient trois d'ailleurs à rechercher des assistantes parlementaires. Je me suis présentée, j'étais vraiment la plus qualifiée, la plus tout. Alors il y avait des petits gamins qui étaient là avec des petites licences. Bon, je vais mépriser personne et toute mon expérience, mais je suis pas passée. Bon, c'est pas grave. Après, j'ai compris au bout de 20 ans qu'il y avait une omerta sur des gens comme moi parce que trop qualifiés. Et si on est trop qualifié, qu'on est noir, qu'on est une femme et qu'on ne se couche pas, bon, ça va pas le faire. Voilà. Donc je me débattais dans le vide. Je l'ai compris très tard parce que le système qui gère le monde aujourd'hui, c'est un système de prostitution généralisée, de corruption généralisée, d'asservissement généralisé. Si vous n'êtes pas dans les trois catégories, servile, prostituée, corrompue, vous n'aurez rien. Donc, je vous le dis tout de suite, hein, malgré vos grands diplômes. Et puis, si vous, en plus, vous ne faites pas partie de la catégorie des héritiers, qui ne sont rien d'autre que, voilà, les mêmes prostituées, corrompues et serviles, parce que devenus tous des collabos, ça se vérifie, hein. C'est pour ça que la France ne marche pas, l'Europe ne marche pas, l'Occident ne marche plus, parce que tout le monde est devenu collabo d'un système qui ne se montre pas et qui est devenu innommable. Parce que désaffilié, déterritorialisé, déporté et surtout imposé par la force, la tyrannie et la suppression des libertés. Ça, vous le vivez à tous les coups. Donc, Madame Fillon, moi, pour connaître ce milieu-là d'assistante parlementaire, et même pour être associative, et tout simplement ce que je suis, partout où je vais, on m'aborde, on me pose des questions. On me pose des problèmes, parfois je les relaie. Je ne peux pas venir prouver à tous les coups j'ai fait ci, j'ai fait ça. Quand j'ai fait écrivain public pour soutenir les sans-papiers, je ne peux pas le prouver. Le travail d'assistant parlementaire, c'est un travail permanent. Une fois que les gens vous ont repéré, même dans un bar, vous serez interpellé pour répondre à une question, à une situation. C'est un travail immatériel, mais qui est réel. Et en plus, moi, je suis fille de politique. J'ai vu ma mère faire ce travail auprès de mon père sans être son assistante, sans être payée pour cela. Nous-mêmes, les enfants, on l'a fait, ce travail, relayer l'information, apporter des solutions, répondre aux questions, quand papa n'est pas là. Mais ça, c'est quand vous êtes à l'extérieur et qu'on vient, je veux dire, un journaliste qui n'est même pas capable de sortir de Paris, d'aller quelque part faire un reportage, venir critiquer la femme d'un sénateur ou d'un député, qu'elle ne fait rien, c'est faux. C'est faux, simplement, elle ne peut pas le prouver, elle ne peut pas apporter des documents clairs pour cela. Maintenant, que l'on dise qu'il faut sortir tout cela à la maison et aller dans un bureau et tout, c'est trop facile à dire. La politique, ça ne marche pas comme ça. On est politique, je vous assure, 24 heures sur 24, même quand on dort à la limite. Parce que dès que quelqu'un vous voit, il vous interpelle. Vous êtes toujours là-dedans, que vous le vouliez ou pas. Alors, c'est facile de jeter en pâture une seule personne. Moi, je ne la défends pas particulièrement, mais je dis que ce système est tel que, même si, et ce serait heureux, qu'on fasse quand même en sorte qu'ils n'embauchent pas leur partenaire par la suite, comme assistante parlementaire, ce qui est sûr, c'est que la femme d'un parlementaire participe à son activité. Ça, c'est clair et net, et elle y participe de beaucoup. Elle n'est pas payée, c'est dommage. Est-ce qu'il faut la payer? Je ne sais pas, peut-être pas, parce que le mari aussi gagne déjà quelque chose et que nous tous, nous devons faire des sacrifices parce que c'est un service public. Mais ça, c'est des choses que j'ai posées sur la place publique depuis 10 ans. Pourquoi les journalistes n'ont pas repris? Tout le monde était au courant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué cela, comme ils ont fermé l'information sur la fille de Mitran qui a grandi dans l'ombre, deux mandats, s'il vous plaît, 14 ans. Ils étaient où? Monsieur Fillon. Si on voulait faire la justice, d'abord, un, il fallait pas attendre le moment des primaires, hein, ce serait sorti de pluie. Deux, il fallait le faire avant les primaires, de façon à ce que les données soient claires et pas seulement pour lui, pour tous les candidats qui devaient être passés au peigne fin. Ce n'est pas au moment où on voit que M. Fillon s'est installé de façon durable dans les sondages que les journalistes vont sortir vite fait parce que leur candidat, vous savez bien lesquels, M. Hamon, M. Macron, alternativement, soutenu par des personnalités qu'on ne voit pas toujours. M. Hamon, dont la femme, vous avez entendu, vous avez lu aujourd'hui, touche des sommes astronomiques aussi chez LVMH. Et on n'en parle pas, personne n'en parle, parce que là, on est dans l'ordre du 30 000 euros. Hein, ce serait l'équivalent du salaire de 2 000 euros de Madame Fillon, multiplié par 15 mois, un an et demi, qu'elle touche en un mois, Madame Hamon. Ces choses-là ne sont pas dites. La justice, c'est pas cela. Et puis le parquet. Alors là, le parquet qui livre les informations au jour le jour de la procédure. Rien que pour cela, la procédure est déjà disqualifiée à la source et à la base. Je veux dire, un avocat, il n'a pas de difficulté à faire tomber cette procédure. On peut toujours dire que oui, mais on se rabat sur des questions procédurières alors qu'il y a des questions de fond qui sont posées. Oui, mais alors il n'y a pas besoin de bouc émissaire. Il y a besoin d'appliquer la loi, toute la loi, et rien que la loi à tout le monde de la même façon, et de remonter à ces faits qui remontent quand même, je ne sais pas depuis combien d'années. Bon, Rien que ça, déjà, la procédure est invalidée. Et en plus, il y a une question de la séparation des pouvoirs. Ça, je l'ai lu, j'ai apprécié des chefs de groupe parlementaire, je crois, de droite, qui se sont inquiétés de cette justice-là, parce que, au fond, cette enveloppe discrétionnaire, laissée donc à la discrétion du parlementaire, est légale. À partir de là, s'il y a un problème qui se pose, ce n'est pas les médias qui viennent se saisir comme ça la justice, surtout une justice vindicative pour faire payer la victoire de Trump à M. Fillon, que je soutiens, et comme je soutenais M. Trump, et comme je soutenais le Brexit, donc voilà, par translation, vous avez la relation. Ce n'est pas comme cela, c'est l'Assemblée nationale qui devait déjà porter plainte contre des comportements s'ils avaient estimé que M. Fillon avait dépassé les limites de son mandat et de ses, de ce que cette enveloppe-là permet de faire. On nous dit même qu'il y a eu des indemnités de licenciement. Bon, bref, toute la procédure n'est pas valide, elle n'est pas recevable en l'état parce qu'elle est empruntée des chemins de traverse, notamment par les médias et notamment par la justice qui se saisit d'une question qui concerne l'Assemblée nationale et que la séparation des pouvoirs ne permet pas à la justice de se saisir des problèmes de cette façon-là. Voilà, Fillon, il a cette question qui lui est arrivée, le pauvre, c'est une victime, même si certains disent oui, mais c'est un prédateur aussi, oui, mais voilà, bon, ça on peut débattre. Et la vérité, c'est qu'en France, si on veut aller dans le fond, presque tout le monde triche en France, ok? Donc à partir de là, laissons tomber, faisons table rase, remettons les choses en place et puis avançons tranquillement. Fillon, il a une autre question qui le suit. C'est peut-être que il va pas être politiquement correct, notamment ce qui concerne tout ce que les mondialistes et les globalistes demandent, c'est-à-dire poursuivre de façon forcenée tout ce que le mariage gay réclame derrière, les adoptions d'enfants, adoptions sauvages au demeurant, qui ne protègent pas l'enfant, parce qu'il y a la question du droit de l'enfant. Il y a peut-être la question aussi de l'avortement qui tourne, qui rôde autour. Et d'ailleurs, j'étais intéressé pour l'avortement de lire Ron Paul, le fameux sénateur, dont je vous renvoie toujours à son site blog qui est très 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 intéressant parce que là on pose les vrais problèmes des débats et qui pose la question de la façon selon laquelle l'adoption, le droit à l'adoption est devenu un droit constitutionnel aux États-Unis. Il y a 44 ans, il dit, le mois dernier, ça fait 44 ans que la Cour suprême, par un arrêté de Roe contre Wade, c'est pas versus Wade, a donc pris la décision de déclarer l'avortement, de déclarer droit constitutionnel. Et cette décision, qu'on appelle la décision Roe, reste l'une des décisions de la Cour suprême la plus controversée que même ceux, les défenseurs de, enfin, ceux qui supportent, qui sont pour l'avortement, ont quand même critiqué sur le plan judiciaire ou du droit, parce que c'est une décision qui allait au-delà de ses prérogatives, des prérogatives de la Cour suprême, et qui était basée sur un raisonnement totalement faux. Raisonnement totalement faux. C'est intéressant. Raisonnement totalement faux. C'est intéressant parce que là, on va peut-être laisser Monsieur Fillon qui. Moi, je continue quand même à dire que franchement, on peut aimer Monsieur Fillon ou ne pas l'aimer. Ce n'est plus la question. La question maintenant, c'est l'intérêt national, c'est la compétence du prochain président, c'est l'avenir de la France qui est en jeu. Quand vous voyez qu'un policier peut aller, voilà, sodomiser un jeune qu'il est en train de verbaliser, c'est très grave. C'est très grave parce que c'est la culture aujourd'hui qui permet que tout le monde soit focalisé sur les parties intimes des autres. Quand vous voyez le bazar que c'est devenu, les reportages médiatiques, le Figaro va carrément poster des scènes de sexe dans un article alors qui passe en plein jour, les enfants sont sur Yahoo. Toute cette apologie du sexe fait que c'est pas rien, C'est pas rien, c'est pour vous détourner de l'essentiel. Et pour détourner les gens de l'essentiel, on fait quoi? On fait du basic instinct. Les instincts primaires, toujours et toujours, ça vous ramène par le bas, ça ne vous élève jamais et ça vous abrutit. Fillon, il est un danger contre toute cette déliquescence, j'allais dire identitaire, parce qu'on me dit, oui, voilà, ce sont les identitaires, hein, oulala, on va s'enfuir. Non, cette menace-là que les globalistes perçoivent comme telle, hein, qui n'en est pas une, parce qu'elle ramène les choses, j'allais dire, à l'essence humaine, bon, ça pose de grands problèmes que Trump rencontre en ce moment. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait de Trump? Voilà, Trump comme Fillon. Là, alors, c'est carrément le droit qui est directement, j'allais dire, défié, interrogé, interpellé. Trump, déjà, il est arrivé. Qu'est-ce que les médias ont dit ici? Je lisais récemment, mais ça, ils se font l'écho de ce qui a été dit déjà en Amérique. Oui, la Russie aurait aidé Trump à gagner parce que elle a révélé les magouilles, elle a hacké les sites du Parti démocrate et a révélé les magouilles de la candidate qui font que cela a finalement favorisé ou bénéficié à Trump. Non, mais vraiment, tout cela a été dit en rapport avec les suspicions. Enfin, il y a toute une rumeur qui circule selon laquelle la Russie aurait détiendrait des informations sur Monsieur Macron et des informations compromettantes. On ne sait pas lesquels. Alors oui, il paraît qu'il y a une plainte comme quoi la Russie ne devait pas se mêler en tant que puissance étrangère des élections en France, comme elle l'a fait aux États-Unis en favorisant Trump. Donc ils ont porté plainte, il fallait vraiment vérifier partout. Et le site de Macron, je ne sais pas de qui était hacké, quelqu'un qui est associé à lui, était hacké fréquemment. Donc, c'est devenu une grosse affaire, hein. Il faut sauver le soldat Macron de la Russie. Trump aurait bénéficié de l'aide de la Russie. Non, mais vraiment. On ne pose pas la question du fait que le Parti démocrate a triché depuis le début. Le Parti démocrate a empêché qu'il y ait d'autres candidats qu'Hillary. Et M. Sanders, qui a résisté, je ne sais pas pourquoi, puisqu'après il s'est rallié. Forcément, il a eu les affres du. Je veux dire, c'est une chance que M. Sanders ait existé parce que comme ça, on a pu voir c'était quoi le Parti démocrate. Un nid de fraudeurs. Et si Wikileaks a pu identifier cela pour nous le rapporter, on ne voit pas pourquoi cela devrait poser un problème. Au contraire, c'est une chance parce que la justice, heureusement, quand on envoie des mandats d'arrêt internationaux, c'est que la justice est transfrontalière. Si de l'extérieur je trouve qu'il y a un gros magouilleur de l'autre côté, je peux aider ce pays-là. Ça, c'est normal, mais c'est carrément le monde à l'envers. On vous dit, ah non, le fraudeur devait gagner, mais comme on a révélé qu'il fraudait, c'est ça qui n'était pas bien. C'est pas le fraudeur qui a tort, mais c'est celui qui a révélé qu'il y avait un bandit dans la maison. Un loup dans la maison. Non, mais c'est pas possible. C'est le monde complètement à l'envers. Et ça, c'est les médias français, M6 Info, pour pas le nommer, qui relaient ce genre de stupidité. Les gens vont s'embrouiller dans l'esprit. On comprend plus qui a tort, qui est du bon côté, qui. Voilà, la loi même devient très très fumeuse comme ça. C'est du brouillard. On sait plus. Même Monsieur Trump, il a un problème. Enfin, il a un problème. Aujourd'hui, j'ai intitulé un article Fillon ou le chaos. C'est ironique, c'est une façon de dire ce qui arrive à M. Trump en ce moment. C'était Hillary ou le chaos. Parce que quand on voit que dès que M. Trump a été élu, tout de suite, la rue a commencé à grouiller. C'était la manifestation, les libertés des femmes, et puis la manifestation pour les droits d'avortement. Pour chaque chose, il y a une manifestation pour ci ou ça. Bon, M. Trump. Tout ça pour le gêner qu'il puisse pas travailler. Là-dessus arrive la loi sur l'immigration. Il a juste proposé un moratoire pour contrôler l'immigration, quand même, pour remettre les choses à plat, quand même. Forcément, les globalistes sont sortis pour dire, mais non, Il y a quelque chose qu'on va appeler les droits de l'homme qui a codifié la liberté de déplacement, la libre circulation des personnes, oui, qui fait partie des libertés fondamentales, oui, mais il faut aller au fond des choses. D'abord, un président, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la séparation des pouvoirs, il a ses prérogatives. Il peut décider d'un moratoire sur l'immigration. Deuxièmement, quand on va regarder au fond, parce qu'il y a un juge qui a voulu faire la leçon sur la Constitution au président, et les commentaires lui ont bien répondu, des gens qualifiés qui lui ont dit, mais non, déjà la question de l'immigration, elle a été déjà cédée au Congrès. C'est le Congrès américain qui seul a la compétence de relever une contradiction quelconque sur les politiques de l'immigration mises en place par le gouvernement, mais pas la Cour suprême. C'est toujours pareil, quelles sont les limites de chacun dans le pouvoir, laquelle Cour suprême aux États-Unis a un droit d'autosaisine, oui, elle s'est saisie de l'affaire, mais ça c'est encore pour des raisons politiciennes et médiatiques, et c'est la rue qui vient faire pression, le chaos. Comment elle fait pression? Elle nous dit, les gens peuvent circuler. Oui, les gens peuvent circuler librement, tout à fait. Celui qui a un visa, il peut entrer. Tout à fait. Celui qui un visa américain, hein, un visa d'entrée américain, il peut entrer. Celui qui a la famille aux États-Unis, on peut voir, mais ça relève déjà du droit humanitaire parce que certains y sont en situation irrégulière. Ça va nous concerner ici. Hein, ces débats sur l'immigration, ça arrive très très vite. Il faut pas que les gens pensent, parce que ça, moi je l'ai vu ça. Beaucoup de gens arrivent dans la clandestinité totale et puis ils se marient. C'est des mariages gris, c'est des mariages blancs. Ils lessivent comme ça, ils blanchissent l'illégalité. Et ça devient quelque chose de permanent. Il faut quand même regarder ces choses-là, parce qu'après, sinon la loi, ça sert plus à rien. Si la loi, elle est là pour être contournée et que tout le monde dit bravo, bravo, c'est pas possible, parce que comme l'a si bien dit Monsieur Philippot, alors pour une fois, j'ai applaudi. Si les murs, la frontière tombe, les murs se déplacent à l'intérieur. Et c'est ce que les Noirs américains vivent toujours jusqu'à présent et d'autres étrangers. Donc le tout n'est pas de venir. Encore faut-il s'en sortir. Et donc, il faut venir avec l'accord des Américains, que le problème soit posé de façon à ce que les Américains se sentent quand même quelque part participant à la décision ou étant plus ou moins d'accord ou comprenant les tenants et les aboutissants. On ne peut même pas en parler. Tout de suite, les gens sont dans la rue. Non, ils doivent. Mais derrière tout cela, c'est une grande hypocrisie. Tous ceux qui sont dans la rue, c'est les grands racistes. Ils intègrent qui soit pas noir. Ils intègrent noir quand le noir a déjà réussi par ailleurs. Là, on a un cas très flagrant. Je vous cite tout ça comme ça, on voit que vous allez. C'est Nick Cannon qui présentait une émission qui s'appelle l'American Incroyable Talent, ce qu'on a ici en recopié, comme d'habitude, puisque la France ne crée plus rien, elle recopie tout. La France a un incroyable talent. Il est un grand présentateur. Alors, pas plus tard que, je sais pas, il a fait un post là hier sur Facebook pour annoncer qu'il démissionnait. Il démissionnait de cette émission parce que ça ne correspondait plus ni à l'esprit de la créativité musicale, ni à l'identité américaine, qui faisait que voilà, les artistes étaient libres de créer, ils étaient libres. Je veux dire, l'art, c'est la transgression. Si vous venez, vous commencez à contrôler tout ce qui se passe au niveau de l'art, ce n'est plus l'art. Vous contrôlez l'artiste, ça marche plus. Or, la musique aujourd'hui, vous avez constaté, hein, c'est bam 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 bam. On dit deux, trois, quatre trucs derrière, et hola, hola, hola. Et puis voilà, l'orchestre est fait. Mais ça, c'est pas la musique. C'est des trucs de boîte de nuit synthé, c'est de l'animation. Donc, il n'y a plus vraiment l'espace qu'il faut pour faire en sorte que des grands musiciens, enfin, qu'une voix arrive. On avait pensé que ces émissions de télé, parce que c'est le système, il s'accapare de tout, hein, la musique, la mode, votre nourriture, tout, 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 c'est un système de contrôle généralisé. Vos téléphones, je vous parle même pas, ils sont dedans matin, midi et soir. On avait pensé, ils ont pensé qu'ils allaient canaliser cela. On canalise pas la créativité. On la canalise, on la laisse s'exprimer. Et en la canalisant, on arrive à tout un tas de médiocrité musicale dont Nick Cannon, il a voulu rigoler, il a même parlé des nègres, parce que nous, les Noirs, hein, des fois, on s'insulte des nègres, c'est notre problème. Et puis, on lui a dit, ah, non, non, pas ces mots-là ici, parce que sinon, on va commencer à dire l'autre mot qu'on prononce pas, vous savez. Donc, c'est toujours cela. Derrière ces soutiens que vous voyez, qu'on vous présente comme humaniste, solidarité, derrière, il y a autre chose. Quand les globalistes acceptent, vont à la rue pour contredire M. Trump, ils n'y vont pas parce qu'ils aiment les immigrés ou parce qu'ils aiment les Arabes, ils n'en ont rien à cirer. Ils y vont parce qu'ils veulent un monde sans frontières. Or, le monde sans frontières, c'est comme un poulailler ouvert et les loups, ils y sont libres. C'est ça le problème. Et eux, les loups, qui sont en train de défiler hypocritement en ce moment, qui en même temps, les premiers, vous savez, hein, ne loupent pas une occasion pour parler du terrorisme islamique, mais vous brandissez le terrorisme islamique d'une main et de l'autre, ah oui, il faut que tous ceux de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, je sais pas pourquoi il y est, franchement, parce que l'Arabie Saoudite, c'est pire, partout, là, il faut qu'ils viennent librement. Il faut être cohérent. Il n'y a même pas de cohérence. Tout ce qu'il y a, c'est la poursuite des intérêts qui visent à faire tomber les frontières. Et quand on fait tomber les frontières, on fait tomber l'idée de l'État-nation et on fait tomber l'idée de l'État de droit, parce qu'il n'y a pas d'État de droit sans État-nation et inversement. On fait tomber tout ce qui est affiliation. On met en place une culture bâtarde et on met surtout en place une culture de l'arrogance. Moi, j'ai discuté avec un immigré ici, pardon, un Africain. Il est sans papier. Il est assisté là, il est au foyer et tout, avec, bon, c'est toujours le même circuit. Un monsieur qui n'a pas 20 ans, 25 ans, il est quand même pas loin de la cinquantaine, qui a déjà une vie derrière lui. Et il avait des choses à dire à M. Trump par rapport à sa politique de l'immigration. On s'est accroché là-dessus. Je lui ai dit, s'il te plaît, fais-moi plaisir, commence déjà par la France, laisse tomber l'Amérique, c'est trop loin pour toi, c'est trop compliqué, tu y comprendras rien. Commence déjà à soutenir M. Fillon ou M. Macron ou M. Hamon ou M. Mélenchon ou Madame Le Pen, qui tu veux. Commence ici en France, mais laisse tomber l'Amérique. Et en plus, moi, les Africains, je leur fais un reproche, les hommes africains. C'est très facile de venir ici en France et puis parler. Bon, je parle pas de ceux qui sont nés là, ceux qui sont en Afrique. Ils viennent ici et lui me disait, oui, mais moi j'ai le droit de parler parce qu'ils viennent en Afrique et ils s'accaparent de nos richesses et nous on est obligé de venir ici en immigration. Oui, mais ces gens-là qui sont à la rue, au passage, en même temps, vous voyez un peu, ils sont en train de faire une traite négrière. Ils ont rouvert les vannes de la traite négrière, mais ils le disent pas. Eux, ils s'enrichissent sur cela, le business, ça va très bien, c'est une nouvelle traite. Et négrière, bon, maintenant elle n'est plus négrière, elle aussi, c'est une image. Alors lui, je lui dis, mais pourquoi les gens arrivent chez vous et prennent tout? Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'hommes. Quand un homme arrive quelque part, vous savez bien, le règne masculin, c'est comme le règne animal. Ils arrivent, il n'y a pas d'hommes pour défendre le territoire, ben je suis désolé, ils prennent. C'est bien fait pour vous. Parce que ici, qu'est-ce que vous croyez? Ici, dans l'Europe, les gens ont lutté pour avoir les droits qu'ils ont. Vous luttez pas, vous commencez à dire le pouvoir. Oui, mais ici, les gens ont lutté contre le pouvoir. Les gens se sont opposés à ce que les étrangers viennent et prennent tout ce qui est mine. On vole le pétrole au Congo, sur le large. Ils peuvent rien faire. Le ministre a dit carrément, oui, on peut pas surveiller. Non, mais vraiment, même avec les pirogues, vous pouvez surveiller. Voilà, non, c'est des choses qui vous... Cette histoire d'immigration, je vous jure, c'est le sordide même qui y a cours. Alors que ces gens défilent, nous font rire. Mais il y a pire. Il y a donc deux choses. On revient à la loi. C'est que, premièrement, qui donne les visas en Syrie, en Libye, en Irak, un peu partout, au Yémen, où l'Arabie Saoudite bombarde tout le monde, au Soudan, où ça va pas, en Somalie, etc. Qui donne les visas? C'est des pays où l'État est en faillite. Donc les visas qui sont délivrés là-bas, c'est ISIS qui les donne? Qui les donne ces visas? Donc il faut commencer par poser les vraies questions. Donc si c'est ISIS qui délivre les visas, ben, Trump a raison de dire non, attention, on doit vérifier. On doit vérifier par deux, par trois, par quatre fois, cinq fois, six fois. On peut pas faire entrer comme ça. C'est pour ça qu'il fallait poser les choses et en parler. On ne pose même plus la question du droit. Vous voyez, quand je vous ai dit, dès que l'État-nation tombe, dès que les frontières tombent, c'est fini, il n'y a plus de droit. C'est je vais dire, c'est les bandits de grand chemin qui gagnent. Et donc, on revient, on termine là, le juge de la Cour suprême, donc il y a une Cour suprême qui a des droits là, on appelle ça 9e district. Franchement, la justice américaine, je vais rentrer là-dedans, je pourrais vous en dire mieux. Mais elle a compétence nationale, et donc elle a pu suspendre la décision de Trump, qui est allé donc à la Cour suprême. Et là-dessus, il vient, il fait son cours sur les droits de l'homme et tout. Mais la question, c'est pas les droits de l'homme. La question, c'est pas l'humanitaire. La question, effectivement, c'est le droit. Bon, maintenant, qui a compétence pour l'immigration? Un. Deux. Est-ce que le président peut prendre une loi sans que la Cour suprême revienne dessus? La Cour suprême parle de non-constitutionnalité. Oui. Donc, pas respect des libertés, mais que ça veut dire quoi? Que ISIS peut donner un visa à quelqu'un, cette personne arrive. Comment on fait pour le savoir? Bon, est-ce que ça veut dire que on peut plus vérifier la source, à la source ce qui se passe? Bon, je veux dire, la Cour suprême, elle n'aura pas raison. Parce que, enfin, au niveau de la Cour suprême, ce juge-là, il n'aura pas raison, parce que vraiment, il y a des éléments de droit qui font que le juge a posé la question sous un angle qui n'est pas celui de la Maison-Blanche. Donc, on est là sur deux territoires totalement différents. Et c'est ça, aujourd'hui, quand les médias vous poussent, quand vous êtes poussé par la. On appelle ça le populisme, j'aime pas beaucoup le mot populisme. Quand vous êtes pris plutôt par l'émotion et pas l'instant du moment, quand vous êtes pris par tous ces faux-semblants qui vous embrouillent l'esprit, vous arrivez à prendre des décisions comme celle-là. On verra, donc c'est très intéressant, ce que la justice va dire pour Monsieur Fillon, pour le mettre en examen ou pas. On verra ce que la Cour suprême américaine dira. Au niveau de la loi pour invalider ou pas la loi sur l'immigration, mais toujours est-il dit que les contrôles se suivent. Hein. On commence maintenant quand même à. Bon, c'est vrai que le contrôle d'identité systématique, c'est un peu lourd. C'est pour cela qu'il vaut mieux éviter ces contrôles-là, pour les éviter et prendre donc le problème en amont. De façon à ce que après les villes qui veulent être sanctuarisées, qui veulent pas qu'on fasse ces stops-là tout le temps, bon, ça peut marcher comme cela, mais c'est pas d'imposer de mettre un gouvernement, un État devant le fait accompli. Une fois qu'ils sont entrés, ils sont entrés, et puis vous pouvez plus rien faire. C'est pas que les immigrés sont des criminels, non, mais c'est que moi je vois l'Afrique, par exemple, se vider. C'est vider des gens qui viennent ici. Je vois les Africains qui ont démissionné. C'est des deux côtés, il y a des ravages incroyables parce qu'il y a une perte de repères identitaires. Il y a une perte de repères au niveau de la mission, même, comment je vais dire, quand je dis mission, c'est trop, mais du projet des êtres humains qui sont maintenant complètement perdus, savent plus où aller. On va là, on va là, on va là. On n'a même pas de projet, mais pourvu qu'on y aille. Bon, moi, je m'arrête là parce que je pourrais. On va s'arrêter là et parler de la Californie vite fait et dire quand même que. Il y a le barrage, l'un des plus hauts. Ils sont deux en Amérique qui ont cette hauteur. Il y a des fissures, des trous autour qui font que le barrage peut tomber à tout moment, on ne sait jamais. Il peut s'écrouler, peut-être oui, peut-être non. Et alors ça créerait une inondation monstrueuse. Et on a évacué 200 000 personnes déjà. Ça, c'est le côté ouest américain. Et puis du côté de l'est américain, on a la neige qui tombe, les avions sont cloués sur place, ça décolle pas. Tout cela fait que je clos par cette parole du Deutéronome 31-20 qui dit, en effet, je vais conduire ce peuple vers le territoire que j'ai juré à ses ancêtres de lui donner, Un pays où coule le lait et le miel, il mangera à satiété, s'engraissera, intéressant, s'engraisser, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira, il me méprisera et violera mon alliance. Que ceux qui ont les oreilles entendent et que ceux qui ont les yeux voient. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt et bonne digestion de la justice. Comment je vais dire? Pas aux ordres, mais quand même très compromise. À bientôt.